France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans France Culture. Patrimoine, spectacle, visite et initiative, l'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 6 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Dans le studio avec moi pour animer cette émission, Bénédicte et Dominique, bonjour.
Bonjour. Bonjour Bénédicte.
Et nos deux invités du jour, Emmanuel Dupont, directeur du château du Plessis-Massé, et Stéphanie Vitard-Gibia, directrice du RU, repère urbain. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on voyage dans l'histoire, de la préhistoire à la mosaïque du XXe siècle. Voyage aussi dans la couleur avec le schiste noir du château du Plessis-Massé et les dégradés bleus des mosaïques de Dorico.
Le patriarche du patrimoine.
Bénédicte, vous avez invité Emmanuel Dupont pour pitcher le programme culturel du Plessis-Massé. Et vous nous projetez dans le printemps de 2024.
Et oui, on part sur 2024 parce que avant de vous parler du programme 2024, en fait, ce n'est pas habituel. Il n'y a pas de programme cet hiver. Le château ferme ses portes. Emmanuel Dupont, justement, qu'est-ce qui se passe au château du Plessis-Massé?
Bah écoutez, une fois n'est pas coutume, je le disais juste avant, quasiment tous les 20 ans, en fait, il y a comme quelque chose qui est récurrent chez nous, c'est qu'on fait des gros travaux. Il s'avère que la cour est décaissée amplement pour changer tout le réseau souterrain, c'est-à-dire qu'on fait des travaux pour changer tout ce qui ne se voit pas. C'est un petit peu malheureux, mais qui va permettre au château de passer, en fait, de changer d'époque et de moderniser un peu tous les réseaux qui ont à peu près entre 35 et 40 ans. Donc les réseaux d'eau usée, les réseaux de chaleur qui sont assez anciens pour préparer la suite, en fait, peut-être vers une chaufferie bois qui serait dans le parc, et tout ce qui est réseau électrique, arrosage, j'en passe et des meilleurs. Voilà.
Donc on ne touche absolument pas à l'écrin.
Alors l'écrin, on n'y touche pas, surtout pas. Il y aura des passages qui vont être donc sous couvert des ABF, en fait, qui vont être percés dans les murs pour amener justement tous ces réseaux. Mais dans tous les cas, il y a déjà des choses qui sont en place. On modernise, surtout en sous-sol, et on laisse au-dessus. Il y a eu tout un débat, en fait, sur le revêtement, en fait, de la cour,
oui, l'aspect superficiel. Il y a des fleurs magnifiques, c'est un très beau parterre.
C'est ça, il y a des fleurs, il y a plein de choses, surtout au-dessus. Et l'idée est de savoir si on transformait tout. Alors, il y a deux choses. La première, en fait, c'est que ça nous permet, nous, de garder aussi une projection sur ce qu'on va avoir comme terrain de jeu l'année prochaine, notamment sur le Festival d'Anjou, et de savoir que les niveaux, par exemple, ne vont pas changer. En fait, ça a une impact sur notre scène, sur le gradin. Et puis également, c'est une question de délai, parce que j'ai 5 mois là de fermeture, dans lequel on a déjà rempli le plan de charge, il n'y a pas de souci, on va s'occuper pendant l'hiver. Et par contre, la difficulté, c'est 5 mois en fait où je n'ai pas du tout d'activité. Et nous, c'est très important pour nous, surtout voilà, sur la période hivernale où on a beaucoup de réceptions, beaucoup de séminaires, en fait, c'est vraiment un temps fort. Voilà.
Et comment ça se passe alors, ces travaux?
Eh bien, écoutez, c'est un beau chantier. En fait, on a démarré par des fouilles préventives du service archéologique et on a la chance en Maine-et-Loire d'avoir un gros service qui est très référencé, qui est porté par le département avec des forages pour repérer déjà en fait les zones préalables des travaux pour savoir si on allait tomber sur quelque chose, pour déjà se préparer un petit peu sur la quantité de moyens humains notamment en fait à mettre en face. On a trouvé de très belles choses, mais pas au niveau où il y aura des travaux, notamment un vestibule, un sol de vestibule du XIIIe siècle, semble-t-il, à un endroit où on n'aurait pas imaginé du bâti. Donc il y a peu de choses qui sont connues sur le bâti de cette période-là, sur le château, on a très peu d'éléments. Donc ça, c'est intéressant pour nous, c'est-à-dire que effectivement, c'est du temps, c'est de la fouille, c'est un état qui ressemble à des tranchées, c'est un peu verdun, hein, en faisant un raccourci un petit peu facile, mais dans tous les cas, ça nous permet d'apprendre énormément de choses. Et derrière, passer c'est donc une période de fouille qui va accompagner le début des travaux en fait. On va avoir en fait une fois que les parties sont enlevées, donc le pavage, tout ce qui est parement pierre au sol, enfin tout ça va être retiré entièrement. On va avoir tous les réseaux qui vont s'installer. Donc là c'est un peu moins glamour tout de suite. Ça va avoir un peu moins du rêve en fait, mais on va passer par cette phase là en fait et ça va durer. Le gros œuvre va terminer en décembre et on devrait démarrer en janvier justement sur l'installation des réseaux. Et normalement, si on a un peu de chance, en fait, c'est censé finir en mars.
D'accord. Voilà. Est-ce que ces parties que vous avez découvertes pour, enfin, dans le cadre de ces fouilles archéologiques, est-ce que ça va être mis au jour ou ça, c'est impossible ?
Alors non, comme dans beaucoup de chantiers, en fait, qui se lancent avec des fouilles, en fait, archéologiques en accompagnement, en fait, c'est recouvert après. Par contre, il y a une trace écrite, il y a un rapport qui est fait.
Il y a des photos, j'imagine.
Exactement, en fait. Mmh. Donc, on sait que c'est là. En fait, donc on recouvre aussi pour protéger, puis également parce qu'on peut pas tout découvrir, c'est pas possible. Et dans l'idée, en fait, voilà, à moins de tomber sur quelque chose d'assez conséquent, en fait, mais c'est pour l'instant, c'est pas ce qu'on a trouvé. Ça restera en sous-sol, en fait, et les travaux, en fait, de canalisation, en fait, de façon, vont être faits au respect de tout ce qui va être trouvé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va être cassé. L'idée, c'est vraiment de faire en fonction.
Et est-ce que pour les futures visites, est-ce que vous allez pouvoir valoriser toutes ces découvertes ?
Alors, on va essayer. Après, en fait, je dirais que au niveau du Plessis-Massé, on a la chance d'avoir une belle équipe de médiation. En fait, il y en a aussi au service de la ville d'Angers, la ville d'art et d'histoire. Et c'est vrai que c'est une chance d'avoir une plus-value humaine. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. C'est-à-dire que tout le travail qui nous est apporté par les archéos, il va être retranscrit justement là, pour expliquer un petit peu l'évolution qui nous manquait un petit peu dans cette période qui va entre le 12e et le 14e, 15e, où là on a des choses. En fait, on avait 200 ans en fait, où on ne sait pas trop précisément et concrètement ce qui a pu se passer à ce moment-là. Donc c'est intéressant.
Est-ce que c'est pas le fait, je me tourne vers Dominique Latron, est-ce que c'est pas le fait justement de cette période où il y avait beaucoup plus de constructions en bois ou pas du tout ? Le fait qu'il y ait ce vide, en fait, ce manque d'informations sur cette période-là ?
Non, mais une cour est un espace libéré au milieu d'une enceinte. Ça a toujours été un espace vierge, mais c'est aussi sur les espaces vierges que s'accumulent les plus importants témoins de l'histoire d'un site. Parce qu'effectivement, c'est là qu'on dépose, sans être trop regardant, tout ce qui est encombrant, voilà, et qui vient s'empiler, s'entasser sur les sols d'un espace libre.
D'accord, merci. Non, on a hâte de découvrir en tout cas cette partie archéologique. Alors revenons-en maintenant à la fameuse saison pour laquelle je vous avais invité au départ, Emmanuel. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de la saison passée, saison culturelle ?
On a pas traversé en fait une plutôt très belle saison en fait, mais comme beaucoup de sites touristiques, on a démarré en mars-avril avec la dernière édition du Festival Tréteaux en Seine. On en avait parlé un petit peu en fait justement, donc à cette période-là, ce qui tombe bien puisqu'on sera en travaux, il n'y aura rien en fait au château. Et c'est vrai que là en fait on vient de fermer ce week-end et on est sur les mêmes chiffres en fait que 2019, c'est-à-dire qu'on est vraiment revenu à une hausse assez forte. Notre expo sur les cités minières en fait du nord de l'Anjou a très bien fonctionné, on avait une belle expo immersive en fait, ça c'est quelque chose qu'on a développé avec le département là cette année et avec le service de la conservation, ça s'appelle une saison photographique et ça permet vraiment d'utiliser cet objet en fait artistique, la photo en fait, pour que ce soit très accessible au grand public, pour aller toucher à tous les sujets. On faisait de l'urbex l'année dernière, là on était plutôt sur une redécouverte en fait des mines de fer notamment en fait, avec vraiment des propositions en termes de photographie. Christophe Melois donc qui est décédé, dont le fond est à la région actuellement en fait, avec un très beau noir et blanc. On a eu la chance d'avoir quelques tirages, une quinzaine de Éric Tabouchine et Limonier qui étaient présents aux rencontres d'Arles photographiques et qui sont censés revenir l'année prochaine aussi également. Donc c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup plu et qui s'installe dans le temps. Et dans un château du 15e en fait, il nous faut du temps de toute façon, il faut installer les choses en fait au fur et à mesure. Donc on est plutôt content en fait voilà, de tous les résultats, les spectacles ont plutôt bien marché, les animations aussi. On est plutôt bien ancré dans le paysage en fait, on est pas au cœur de la cité mais on est quand même pas loin des confins de l'agglo et c'est ça qui marche. Donc on a hâte de vraiment travailler pour la saison prochaine avec des événements, des rencontres.
D'accord.
Pour relancer ça.
Et vous avez des choses précise pour
alors,
2024
eh ben écoutez, si, en fait, on va dire qu'on va miser, mettre un cierge et être assuré en fait, que fin mars, normalement, on sort des travaux, on va lancer l'ouverture du château et on est en pleine année des Jeux Olympiques, hein, je ne vous apprends rien. Donc on a travaillé en fait, avec certains de nos collègues pour essayer de décliner en fait, un vrai week-end d'ouverture autour du cheval en travaillant avec le Haras du Lion d'Angers. On est en train d'échanger avec le Mondial du Lion aussi et pour travailler autour de la pratique amateur, en fait, c'est-à-dire travailler avec les cavaliers amateurs, avec une course éventuellement, avec de la démonstration, et de faire une déclinaison en fait historique aussi. toujours avec notre équipe de médiateurs, en fait, qui va pouvoir décliner tout ce qu'on fait déjà à l'année avec les scolaires et de faire un focus à ce sujet-là. Et de faire, en fait, des rendez-vous comme ça, des étapes, régulièrement, justement, tout au long de l'année. Et puis en plus, 31 mars, début avril, logiquement, on aura la programmation du festival, ouais, dont je n'ai pas vous parler maintenant du tout, parce que je n'ai pas le droit. Mais dans tous les cas, qui s'annonce encore vraiment, vraiment, vraiment bah, gourmande, en fait. C'est vraiment, il y a des choses top. Donc, et donc, on a hâte de la partager avec vous, en fait, et on la lancera justement à cette époque-là.
Emmanuel Dupont, merci.
Merci beaucoup, en tout cas.
Et après, Emmanuel Dupont, une pause musicale, et on valse pour personne avec Sophie Unger. Alors là, je suis désolée pour l'accent, Falser für niemand.
Niemand kommt rein und setzt sich hin, den Fuß auf den Tisch, Hand und das Kinn. Niemand ist hungrig, mein Frühstücksmenü, niemand kommt immer zu früh. Niemand, ich habe Geschenke für dich. Was wär ich geworden, gäb es dich nicht, meine gesammelten Werke. Bitte sehr, alles gehört dir.
Poursuis avec vous Dominique, on va parler mosaïque, mais pas celle de l'Antiquité, plutôt celle qui orne les architectures extérieures et intérieures à Angers. Tout le monde a pu le voir, un grand échafaudage s'est dressé sur les façades d'un immeuble à Angers, à l'angle du boulevard Foch et de la rue d'Alsace, et chacun sait que cet immeuble est dénommé Maison Bleue. Elle a d'ailleurs donné son nom à la station du tram. Dominique, vous allez nous en dire plus, mais d'abord, maison, c'est pas une maison.
Non, on l'a toujours appelé Maison Bleue, mais en fait, vous avez raison, c'est une grande copropriété. Il y a peut-être une cinquantaine d'appartements différents, mais l'appellation Maison Bleue, initialement donnée à cet immeuble-là, est restée. Et la Maison Bleue, c'est une vieille dame qui a bientôt 100 ans. Et d'ailleurs, elle n'est plus tout à fait bleue et pimpante, parce qu'en fait, elle est habillée depuis 20 ans par une toile en fibre de verre. Ça, c'est pour prévenir de toute chute de matériaux. Mais le chantier qui s'organise à partir de maintenant va permettre de lui redonner, nous l'espérons tous, tout son prestige. Alors, juste un peu d'histoire. C'est une construction de 1927. C'est une grande opération immobilière de standing. Première construction de grande hauteur en béton armé. On passe à Angers de l'immeuble haussmannien construit en pierre à des grandes structures, des grandes élévations en gagnant deux ou trois niveaux parce que ce sont des constructions en béton armé. Et elle est dessinée par l'architecte Jusserand. Elle répond aux nouvelles exigences hygiénistes. Ce sont par exemple des salles de bain dans chaque appartement d'un grand luxe et d'un grand confort. Très avant-gardiste, bien sûr, pour l'époque. Et toutes les façades de ce bâtiment sont entièrement habillées de mosaïques, tout comme les parties communes et les pièces d'eau.
Mais quel est l'artiste entrepreneur qui se cache derrière ce décor ?
Eh bien, c'est le plus connu des mosaïstes dans tout l'ouest de la France, Isidore Odorico. Et pas de meilleur ambassadeur pour en parler que de recevoir Stéphanie Vitargibia. Bonjour.
Bonjour.
Parce que vous êtes à la fois la directrice du repère urbain, le RU, ce lieu dédié au patrimoine Angers. Vous êtes installée en plein centre, au plein milieu du Jardin des Beaux-Arts. Et parce que vous venez d'ouvrir une exposition consacrée à l'œuvre de ce grand personnage. Alors tout d'abord, quelques mots de votre part sur le parcours de cette famille Odorico, parce qu'il est assez étonnant.
Oui, tout à fait. Alors, le repère urbain accueille évidemment une actualité et son interprétation sur le patrimoine, mais nous avons aussi des expositions d'art contemporain. Et là, c'était l'occasion de faire la part belle à un art décoratif, la mosaïque. Et nous avons dénommé cette exposition Mosaïste au pluriel, Odorico à Angers. Pourquoi ? Parce que c'est toute une saga familiale, comme vous l'avez très justement dit. Nous avons eu une diaspora de mosaïstes italiens du nord du Frioul, venus en France, notamment en partie à Paris, sur le grand chantier de l'Opéra Garnier. Nous sommes à la fin du 19e siècle et nombre d'entre eux vont s'installer en France. Et les familles Odorico vont s'installer particulièrement à Rennes et ouvrir au fur et à mesure quelques succursales, notamment une à Angers.
Donc c'est une famille qui n'a plus de travail dans son pays natal, le nord de l'Italie, et qui est aspirée, si je puis dire, par l'élan architectural français et parisien, et qui vient travailler, mettre ses compétences à disposition des grands chantiers que sont notamment l'Opéra Garnier.
Oui, voilà, donc là c'est un chantier tout à fait fabuleux, l'Opéra Garnier, et surtout, ils ont un savoir-faire tout à fait étonnant, hérité des restaurations, des mosaïques antiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la mosaïque est un art de patience, tesselle par tesselle, petit morceau par petit morceau. Mais ces Italiens adoptent une technique à l'envers, dit a rivoltatura, qui permet de travailler par plaque en atelier et de poser par plaque avec un dessin, un calpinage réalisé au préalable avec une grande rigueur et qui va permettre, notamment sur l'opéra, une réalisation beaucoup plus rapide de ce chantier absolument colossal.
Alors parlez-nous maintenant d'Isidore, parce que dans la famille Odorico, c'est quand même un grand personnage.
Voilà. Alors Isidore, fils du coup, parce que le papa s'appelait déjà. Isidore, qui lui était cet artisan du Frioul, alors que l'Isidore qui nous intéresse est un homme d'un fort tempérament qui a la particularité d'avoir un parcours artistique, puisqu'il a réalisé un cursus complet à l'École des Beaux-Arts de Rennes. Ce qui va faire une grande différence, puisqu'il va avoir une approche artistique, un savoir-faire, des compétences pour avoir justement une démarche, des dessins aquarellés comme des maquettes qu'il va proposer pour ses commanditaires avec un sens inouï des couleurs, des harmonies et complètement avant-gardiste dans cette période d'entre-deux-guerres qui est les arts déco.
Donc il est né je crois au début du XXe siècle et donc il a les compétences techniques qui lui sont transmises par ses parents et il va compléter ses compétences techniques par des compétences artistiques en fréquentant l'École des Beaux-Arts de Rennes.
Tout à fait, c'est ça. Il a un savoir-faire hérité et en même temps il va compléter ce savoir-faire en augmentant par justement une intuition mais aussi un savoir artistique et il va complètement sublimer la mosaïque avec des accords de couleurs, des compositions magistrale et qui va être très apprécié d'ailleurs aussi par les architectes qui vont le faire travailler dans tout l'ouest de la France.
Oui, il est dans le grand mouvement d'art moderne de ce début de siècle et évidemment.
Complètement intégré dans cette période d'art déco.
Alors, il est rennais, j'imagine que c'est à Rennes qu'il y a ses plus grands chantiers, ses plus grandes interventions. Je crois qu'on en compte aussi beaucoup en périphérie de la Bretagne, notamment dans des villas de bord de mer ou dans des établissements publics de bord de mer.
Oui, alors la plus connue est certainement celle des Tables sur Mer. Il a fait l'objet de grandes commandes prestigieuses pour des grandes villas balnéaires, à Dinard également. Il a eu d'ailleurs une succursale à Dinard, une à Nantes. Gironde, puis une à Angers. Donc il a réalisé, il refusait aucun chantier, du plus petit au plus monumental, du plus modeste au plus fastueux. Et il était aussi bien adapté pour des grands vestibules d'hôtels particuliers ou de grandes villas que pour aussi des monuments publics, plutôt pour son côté hygiénique employé de ce matériau qui est extrêmement résistant, très décoratif, mais aussi très solide et très pratique fonctionnel.
Alors je parlais des salles de bain tout à l'heure dans mon exposé liminaire. Il a réalisé, je crois, la piscine de Rennes, qui est un établissement qu'on peut fréquenter d'ailleurs encore aujourd'hui, et qui montre tout le savoir-faire d'Isidore.
Elle est absolument fabuleuse, c'est tout à fait la piscine Saint-Georges, qui est une piscine publique, hein, que nous pouvons profiter pleinement pour aller tout simplement nager, et qui est complètement admirable par son décor et son faste.
Alors parlez-nous maintenant un peu de ses interventions en Anjou. Il a travaillé à Angers, bien sûr, mais il a aussi travaillé un peu en périphérie.
Oui, alors à Angers, on y reviendra, et puis l'exposition du repère urbain met la lumière sur quelques exécutions angevines, mais il a travaillé aussi à Roux-de-Marsan pour une piscine dans un château privé, complètement italien dans l'esprit, l'architecture, avec ses colonnades, son décor extraordinaire, avec ses tons très, très bleus. Et puis il a fait aussi des petits commerces sur des villages aux alentours d'Angers, puisque c'est une technique qui est aussi très appréciée pour les devantures des petits commerçants, puisque ça permet aussi un appel, cette devanture colorée, scintillante, qui permet aussi d'arborer le nom du commerce en façade. Et donc c'est comme on dirait aujourd'hui un petit peu un marketing, un appel sur le passage des habitants.
Oui, aujourd'hui on s'achète une très belle voiture. À l'époque on appelait Monsieur de Rico pour avoir une marque particulière sur sa devanture ou dans sa salle de bain d'ailleurs.
Oui, alors oui, les plus chanceux pouvaient avoir des intérieurs très décorés. On voit dans l'exposition quelques photographies, notamment d'une des salles de bain remarquables de la Maison Bleue, par exemple, mais aussi des salles de bain plus modestes. Il réalisait des maquettes, des modèles, même pour des salles de bain qui pourraient sembler plus simples. Mais il aimait beaucoup ce motif de la salle de bain. Le bain, c'était le lieu de l'intimité, mais il mettait aussi les baignoires sur piédestal. C'est un côté un peu théâtre. Alors souvent dans les tons bleus, mais pas que. Sa salle de bain à Rennes est absolument extraordinaire, avec des poissons sur des fonds dorés. Ça donne très envie de prendre un bain.
Bien sûr. Je connais une maison en bord de mer en Bretagne, où seule la salle de bain a reçu des décors de mosaïque de Dorico. Tout le reste de la maison est couvert de lambris traditionnels en bois, d'un intérêt assez mineur. Et ce qui aujourd'hui met en valeur cette maison, c'est bien sa salle de bain.
Oui, alors il y avait aussi un effet de mode, hein, des arts décoratifs. Donc il y avait des propriétaires de châteaux, de grandes villas, qui avaient envie de moderniser certains espaces, et notamment cette salle de bain qui était un confort moderne et donc aussi très privé. Donc il y a comme ça plusieurs exemples. D'ailleurs, l'occasion de cette exposition nous a fait connaître aussi des exemples que nous ignorions. Parce qu'il y a des gens qui se sont manifestés auprès de nous et auprès de Capucine Lemaître, qui a assuré le commissariat de cette exposition, pour dire chez nous, on a des salles de bain de Dorico, aux alentours de Segré, par exemple, ou aussi à Angers. Donc, vous voyez, on méconnaît parfois son patrimoine ou l'intérêt qu'on peut avoir sur ce patrimoine du XXe siècle, qui mérite pourtant toutes nos attentions.
Alors, un très bel exemple, me semble-t-il, on parlera de la Maison Bleue pour terminer notre entretien, mais. Le restaurant de l'hôtel d'Anjou, ça c'est quand même, il vient d'être enfin restauré, remis en valeur, avec un mobilier qui accompagne très très bien le travail de restauration. C'est un exemple que chacun peut voir. On peut aussi parler de la maison de l'architecture et des paysages. Mmh. Ça c'est un grand immeuble autrefois au bout de l'ancien aérodrome d'Angers, dont tous les sols sont couverts de mosaïques de Dorico. Vous présentez bien sûr aussi ces ouvrages dans l'exposition.
Oui, alors c'est vrai que nous avons fait le choix pour cette exposition angevine exposer alors des maquettes originales qui nous ont été généreusement prêtées par la famille Mander, hein, qui conserve ces documents fort intéressants. Et on voit justement donc le sol donc de la maison de l'architecture, ancienne école d'aviation, le CFA, où on voit effectivement donc stylisé. Donc on voit aussi tout le talent de Doréco et de ses équipes, hein, puisque l'entreprise Doréco a eu plus de 100 ouvriers, hein, donc c'est quand même une entreprise très florissante et très importante. Et tous les sols, effectivement, comme vous l'aviez très justement dit, de l'établissement sont recouverts en mosaïque. La bibliothèque, on a des petites ailes d'avion au sol pour justement être en relation avec la fonction de l'édifice. Donc il a toujours des petits clins d'œil. Bien sûr, le restaurant qui se nomme dorénavant Odorico, hein, puisque l'hôtel d'Anjou s'est réorganisé en changeant son restaurant de place dans cette magnifique salle qui se compose en deux parties, une partie plutôt réservée donc à la restauration et en partie haute une mezzanine, hein, qui était réalisée pour accueillir les concerts et les musiciens pour faire musique et en dessous être dans cette partie plutôt festive. Très agréable, ma foi.
Alors, je crois savoir que Odorico, qui a énormément construit dans toute la région ouest de la France, en réalité n'a pas fait fortune, parce que il est évident que ses travaux sont lourds, sont dévoreurs en main-d'œuvre, et qu'on ne peut sûrement pas vendre son travail au prix réel. Malheureusement, il n'a pas quitté cette terre en ayant fait fortune.
Non, je ne crois pas. Alors, c'était aussi un tempérament de feu. C'était quelqu'un qui était très engagé dans la mosaïque, mais aussi dans le football. Il aimait vivre, etc. Il employait un certain nombre d'ouvriers, principalement, quasi exclusivement des Italiens. Mais il a connu aussi, vous voyez, les deux guerres, hein, donc des périodes de troubles. Il a été aussi... c'était vraiment des moments très difficiles pour l'entreprise. Il n'a refusé aucun chantier, même à un moment donné où... La mosaïque était guère à la mode et pour faire vivre tous ses ouvriers, il fallait qu'il accepte les chantiers. Donc voilà, c'était aussi des périodes extrêmement contraintes. Donc non, et il est mort assez jeune, il est mort en 45. Donc vous voyez, une vie bien remplie, mais...
En tout cas, il a dû fermer quelques agences qu'il avait créées, vous en parliez tout à l'heure. Je crois que celle d'Angers a fermé assez rapidement ce grand chantier de la Maison Bleue.
Alors, elle n'a pas vraiment fermé, puisqu'elle a été reprise par M. Mander, hein, qui était celui qui tenait, qui avait la gestion Domenico Mander. Ensuite, c'est son fils Dominique Mander qui a repris l'entreprise, qui a fonctionné pendant très longtemps. Et encore aujourd'hui, ce sont ses enfants qui ont l'entreprise Carella à Beaucouzé. Donc, c'est encore une filiation
de
la famille.
Sauf qu'on ne fait plus de mosaïque maintenant dans l'entreprise Mander.
L'entreprise a évolué et aujourd'hui la mosaïque est aussi moins à la mode, mais on espère sans doute avec bientôt l'anniversaire de la Maison Bleue mais des Arts Déco remettre cela
mais
au bout du jour.
Il fallait tout le talent d'Isidore pour mettre en valeur ces projets de mosaïque.
Alors oui, lui c'était certainement le plus talentueux, c'est parce qu'il avait justement ce regard artistique particulier par rapport à d'autres qui avaient une approche plutôt artisanale, un beau savoir-faire, mais moins de créativité. Et là, il avait beaucoup d'architectes qui souhaitaient travailler avec lui et puis des commandes prestigieuses.
Alors, pour terminer, quelques mots sur le grand chantier actuel de la Maison Bleue. Il a une part importante dans l'exposition. Et puis surtout, tout le monde peut voir ses échafaudages et tout le monde a hâte de découvrir le travail après restauration. C'est un travail qui demande beaucoup de spécialité. Comment on conduit un tel chantier?
Alors, je ne suis pas forcément la plus spécialiste du domaine parce que c'est une opération privée. La Maison Bleue, c'est le cabinet Architrave avec François Jeannot et ses équipes qui conduisent donc ce chantier de restauration. Mais évidemment, c'est un chantier qui est très important. D'abord, la Maison Bleue, c'est la maison la plus importante recouverte de mosaïque en France. Donc, c'est un chantier unique, hein, assez expérimental, entre guillemets, pour son côté vraiment unique. Et c'est la SOCRA qui travaille, hein, sur la restauration des mosaïques, qui demande évidemment un savoir-faire, mais aussi un stock de tessel ancien, puisqu'il faut qu'on ait aussi les matériaux. Je rappelle que cette technique de mosaïque italienne travaille particulièrement les pâtes de verre et aussi les grès cérames. avec des accords très particuliers pour créer justement ces dégradés, ces scintillements. Il y a aussi des émaux d'or, d'or jaune, d'or blanc, qui permettent ces éclats et ces brillances. Et la Socra a aussi un gros stock de tesselles et un grand savoir-faire en la matière.
Merci pour toutes ces explications et j'invite tout le monde à aller voir bien sûr votre exposition au Repère Urbain, boulevard du Roi René à Angers.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Merci Stéphanie et merci Emmanuel Dupont, merci évidemment Dominique et Bénédicte. C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Étienne pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux, en direct à 17h et le dimanche à 11h, ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.